Alors bonjour à tous et permettez-moi de vous souhaiter une bonne rentrée automnale 2022. Alors c'est notre premier rendez-vous de cette nouvelle saison de bénédiction matinale et on se réjouit d'être de nouveau en onde pour partager la parole de Dieu, étudier tous ensemble et assurément progresser dans les voies du Seigneur. Alors, petit changement, cette session ou dans cette nouvelle saison, les bénédictions matinales auront dorénavant cours du mardi au vendredi. J'ai reçu beaucoup de suggestions après 2 ans et demi de diffusion quotidienne. J'ai reçu donc beaucoup de suggestions quant à comment aménager l'horaire, de bonnes suggestions des uns et des autres, des gens qui se préoccupaient pour ma santé, pour mon bien-être. Donc, je vous en remercie tous. Alors, voilà la formule qu'on a adoptée pour cette nouvelle saison. Donc, du mardi au vendredi, de 8h30 à 9h. Ça permettra à votre humble serviteur de respecter sa journée de pause qui est supposée être le lundi. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait jusqu'à présent, si je diffuse le lundi matin, ça veut dire que le dimanche après l'assemblée, je rentre à la maison et puis je me remets dans mes cahiers pour préparer donc l'étude du lundi matin. Ce faisant, en prenant cette journée du lundi de pause, ça permettra donc d'étayer un peu les choses différemment et puis de me ménager un peu. Et j'avoue que la fatigue était présente et j'étais un peu craintif par rapport à la suite des choses. Donc je suppose qu'avec cette journée supplémentaire ou cette journée de repos, en fait, ça nous permettra de mieux profiter de ce temps que le Seigneur nous donne. Autre annonce aussi pour ce matin. Donc, vous savez que depuis quelques semaines, le Seigneur, de façon extraordinaire, a poussé les 3 pasteurs de l'Église, en tout cas ceux qui enseignent le dimanche, nous a poussé dans une même direction concernant la foi. Je vous explique comment ça s'est passé. Le pasteur Sergio est allé au camp des jeunes comme conférencier à la fin du mois d'août et il a reçu de la part du Seigneur de parler sur la foi. Le mercredi suivant, c'était à moi d'enseigner. Or, durant la semaine, alors que je conduisais, sans savoir ce que le pasteur Sergio avait enseigné à nos jeunes gens, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Et je me dis, bon, ben, ça veut dire que le Seigneur veut que j'étudie cette phrase encore une fois. Et la phrase, c'était, c'est par la foi. Donc, le mercredi, durant mes vacances, un mercredi où je n'étais pas supposé prêcher, mais j'ai dû remplacer un des prédicateurs ou des enseignants attitrés, je suis arrivé donc avec un enseignement sur la foi. Et un des jeunes m'a donc avisé qu'à travers le week-end précédent, le pasteur Sergio leur avait enseigné effectivement sur la foi. Le dimanche matin, le pasteur Sergio prêche et il parle sur la foi. Tout de suite après, le pasteur André vient et nous l'a expliqué dimanche matin en détail. Il vient me voir après la prédication du pasteur Sergio et il me dit, Florent, tu ne me croiras pas, mais le Seigneur m'a dit de parler ou de prêcher sur l'état de la foi. Et je lui explique mon propre témoignage ou mes propres circonstances, et on s'est bien vite rendu compte, le pasteur Sergio, le pasteur André et moi-même, qu'effectivement c'était un thème ou une thématique sur laquelle le Seigneur voulait nous voir nous pencher. Donc je suis retourné à un enseignement que j'ai apporté au début de l'année 2018. Et j'ai révisé tout cela et je me suis dit, effectivement, je crois que c'est une bonne chose que nous retournions à cet enseignement. Donc, à travers les 6 prochaines semaines, peut-être même un peu plus, on va s'arrêter du mardi au vendredi matin sur la thématique « C'est par la foi » tirée de Hébreux au chapitre 11. Et on va voir chacun des personnages qui sont mentionnés dans ce chapitre, qu'on appelle le temple de la renommée ou le musée des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes bibliques de foi. Et on va voir dans chacune de ces histoires que représentait la foi. Donc ce matin, c'est une introduction. Cette semaine, on débute donc notre enseignement sur Hébreux 11, un merveilleux chapitre où on nous parle de grands et de grandes serviteurs et servantes de Dieu qui sont mentionnés donc dans ce chapitre. Alors je vous invite à prendre un petit instant avec moi pour prier afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur et qu'il puisse nous guider dans ces quelques minutes que nous avons d'enseignement. Alors Seigneur, nous te demandons d'être avec nous en cette première journée, mais aussi avec toutes celles qui vont suivre. Nous voulons, à travers cet automne, nous pencher sur cette thématique que tu as poussée fortement dans nos cœurs au niveau du collège pastoral de l'Église quant à la foi. Assurément, tu veux que notre foi soit plus forte, soit renforcée. Tu veux que notre foi soit optimale afin de nous pousser dans ton œuvre et afin que nous soyons les hommes, les femmes que tu désires que nous soyons. Alors, en cette toute première journée de bénédiction matinale, nous te demandons ta grâce, nous te demandons ton onction, et pourquoi pas nous te demander aussi ce que ce papa t'a demandé lorsque tu lui as dit que tu étais capable effectivement de guérir sa fille si il y croyait, ou son enfant s'il y croyait. Nous te demandons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre foi. Assurément, nous ne croyons pas comme nous devrions croire. Ta parole nous dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Peut-être c'est parce que notre foi est défaillante, peut-être parce que c'est notre foi qui est orientée vers des choses qui ne sont pas de toi. Alors nous te demandons à travers ces prochaines semaines, mais en commençant dès aujourd'hui, de nous inspirer, de nous guider, de nous instruire. En toute chose, Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui prendront part à cette série d'enseignements. Nous te demandons que ta bénédiction, que ta grâce, que ton onction soit sur moi, ton humble serviteur, qui est tout simplement un canal pour transmettre ton enseignement. En toute chose, Seigneur, sois avec nous, parle-nous, transforme-nous, dirige-nous, conduis-nous à être le peuple, les hommes, les femmes que tu désires que nous soyons. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et tout le monde peut dire Amen. Alors, je lis pour vous les deux premiers versets dans ce célèbre passage de Hébreux au chapitre 11 qui nous dit au verset 1 et 2 « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Je relis le verset. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ce passage, et c'est malheureux parce que très souvent, on se limite au chapitre 11 comme l'explication de la foi. Quand on regarde un peu mieux ou un peu plus le contexte de ce chapitre, lorsqu'on retourne dans les versets qui précèdent, les chapitres qui précèdent, les chapitres qui succèdent, on se rend compte que la thématique de la foi est un ensemble sur plusieurs chapitres. Je vous dirais principalement sur les chapitres 10, 11 et 12 du livre aux Hébreux. Ce livre, pour vous remettre dans un contexte, l'auteur n'est pas mentionné. La plupart des exégèses, la plupart de ceux qui étudient la parole de Dieu viennent à la conclusion que probablement l'auteur en était Paul, mais il n'est pas mentionné comme dans les autres épîtres de Paul. Voici, c'est une lettre de Paul et je vous écris dans ces circonstances. Donc, on présume que c'est Paul pour rester plus authentique à ce chapitre, j'aurais plutôt l'expression « l'auteur aux Hébreux », même si je partage effectivement l'opinion que c'est probablement Paul qui a écrit ce chapitre. Donc, c'était un épître écrit envers qui ou pour qui? C'est un épître qui a été envoyé, épître veut dire une lettre ou un écrit épistolaire, donc une lettre qui a été envoyée aux croyants de Rome, par quelqu'un qui s'y présentait ou qui voulait laisser un legs d'enseignement à ses croyants. D'origine juive pour la plupart, des gens qui avaient été expatriés d'Israël, de Judée, à travers les tribulations politiques, mais aussi religieuses. Dans ce cas-ci, on parle donc de gens qui se sont convertis à Christ, qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, le Sauveur envoyé par Dieu pour le salut du pécheur repentant, et qui sont à Rome. Ils sont soit libres, soit sous la tribulation. Et on va se rendre compte en lisant le chapitre 10 que pour la plupart d'entre eux, ils passent effectivement par des moments difficiles. En fait, l'ensemble des participants à ce chapitre 11 d'Hébreux, l'ensemble de ces héros de la foi, comme on les appelle régulièrement, on ne nous parle pas de moments glorieux, on nous parle de moments difficiles, on nous parle d'épreuves et dans lesquelles ces hommes, ces femmes ont manifesté leur foi. C'est une chose importante parce que cette foi, et on va le voir tout à l'heure, n'est pas axée vers le fait d'obtenir des bénédictions sur cette terre, mais de croire effectivement à la promesse de salut, en la promesse de vie éternelle qui est adressée à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme le Messie, comme le Sauveur, et qui ont demandé à Christ, effectivement, le pardon de leurs péchés et de leurs offenses. Je relis pour vous ces mêmes deux versets dans la version français courant. Pourquoi? Parce qu'on est très habitué à la version Louis II. La plupart d'entre vous, je suis convaincu que vous auriez été capable de réciter ces deux versets. Mais parfois, on est tellement habitué à une structure de phrase qu'on en oublie ou qu'on en perd la signification. Voire même, lorsqu'on est honnête un peu dans notre recherche, on se rend compte que la version utilisée avec la Louis II, donc c'est une version où c'est un français plutôt, dirais-je, c'est un français qui est un peu trop châtié ou un peu plus châtié que celui qu'on utilise à tous les jours. Le français courant est donc un français contemporain dans lequel on a traduit ou vers lequel on a traduit les textes originaux. Alors je lis pour vous Hébreux 11, 1, 2, mais dans sa version français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés de Dieu. Je le répète une dernière fois, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés de Dieu. Il y a quelques semaines, lorsque j'étudiais ce passage que j'ai repris un dimanche matin, sur la vie d'Enoch, où on disait qu'Enoch a été agréable à Dieu, et parce qu'il a été trouvé agréable à Dieu, il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Et j'expliquais que chacun d'entre nous, effectivement, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, notre désir, c'est d'être trouvé agréable de Dieu. Comment le fait-on? Ici, le chapitre nous le dit clairement. On le fait parce que nous avons eu la foi. Prends une petite gorgée. Ces grands personnages bibliques ont été trouvés agréables à Dieu. Pourquoi? À cause de leur foi. Le pasteur Sergio l'expliquait mercredi dernier et puis dans les enseignements des semaines précédentes. Il expliquait que la foi est comme cette devise, cette monnaie avec laquelle on transige dans le royaume de Dieu. Pour acheter une chose, en Amérique du Nord, au Canada plus particulièrement, on utilise le dollar canadien. Si je vais aux États-Unis, je dois changer mes dollars canadiens en dollars américains pour pouvoir acheter quelque chose à l'épicerie du coin. Si je vais en Europe, dans ce qu'on appelle la communauté économique européenne, ça va être, ou l'Union européenne, plutôt aujourd'hui, ça va être l'euro que je vais devoir utiliser. Si j'arrive avec mes dollars canadiens à l'épicerie, ils ne les accepteront pas et ne permettront pas que j'achète des denrées. Toutefois, si je change mon dollar canadien pour des euros, à ce moment-là, je peux acheter la baguette, je peux acheter le fromage et le saucisson qui sont particulièrement délectables en Europe ou en France particulièrement. Donc, lorsqu'on parle de la foi dans le royaume de Dieu, c'est un peu comme cette devise qui nous permet d'obtenir de Dieu les choses que nous espérons, d'obtenir et de faire des transactions dans le royaume de Dieu. Étant maintenant membre du royaume de Dieu, parce que nous sommes croyants, repentis et sauvés par grâce à travers la mort et la résurrection de Christ, ce qui nous permet d'obtenir, de faire valider nos droits à travers le royaume de Dieu, c'est donc la foi. Donc mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité, même des choses qu'on ne voit pas. C'est à cause de cette foi-là que les grands personnages, ces héros de la foi, ces héros du passé, ont été approuvés de Dieu. Retournons à la version Louis II. La Bible nous dit: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. La foi, et on va y revenir tout au long de ces 6 semaines d'études, c'est le terme pistis. Pistis, pour ceux qui se joignent à nous pour une toute première fois, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec initialement. Donc, lorsqu'on retourne à l'étymologie des termes utilisés, on va donc vers l'étude du grec. Si on était dans l'Ancien Testament, donc ce qui a été écrit avant la naissance de Jésus, ce serait principalement en hébreu que le texte originel aurait été écrit. Par contre, ici, comme nous étudions un passage du Nouveau Testament, dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, c'est donc en grec que nous allons. La foi, le terme grec pour la foi, c'est le terme pistis. Je ne vais pas détailler aujourd'hui ce qu'est la foi dans ce terme-là. On va juste y retourner régulièrement durant cette session. Mais on nous dit ici que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance, ce groupe nominal ferme assurance ou cette association de deux termes est en grec un seul mot qui nous dit hypostasis. Hypostasis. Donc hypostasis. J'épelle les mots grecs pour ceux qui prennent des notes et je sais que vous êtes nombreux. Hypostasis, hypostasis, qui est donc formé de deux fractions, de deux particules, ce qu'on appelle un préfixe et un suffixe en grec. Hypo, le premier mot qui sort, c'est bas. Hypo veut dire quelque chose qui est bas. Pour ceux qui calculent leur glycémie avec un glucomètre, vous savez qu'on parle de hypoglycémie et de hyperglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand la glycémie dans le sang est basse, l'hyper, c'est quand elle est élevée. Donc, hypo, bas. Stasis, la deuxième particule ou le suffixe de ce mot hypostasis, veut dire une stature, une structure, une base, une fondation ou un fondement. Ici, on nous parle donc de la base du fondement, du point le plus bas d'une fondation. C'est comme si l'auteur aux Hébreux voulait nous dire: voici, je vais vous entretenir dans les prochaines minutes ou dans les prochaines lignes, puisque c'était une lettre écrite, je vais vous entretenir sur les bases de la foi chrétienne. La foi est à la base de notre vie avec Christ. La foi est à la base de notre relation avec le Seigneur. Comme on va le voir et comme ça a été mentionné par le pasteur André, par le pasteur Sergio et par moi-même à travers les prédications des dernières semaines, la Bible nous dit très clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut donc dire qu'à la base de notre relation avec le Seigneur, il doit y avoir la foi. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu ne crois pas. Tu ne peux pas avoir de relation avec le Seigneur si tu n'as pas la foi. Et voilà pourquoi cette histoire du papa dont l'enfant est malade et qui s'approche vers Jésus en lui demandant « Je sais que tu es capable de guérir mon enfant, veuille faire une prière, veuille venir le visiter, veuille étendre ta main, veuille guérir mon enfant qui est au bord de la mort. » Et Jésus lui dit « Si tu crois, tout est possible. » Et le père, au lieu de prendre pour acquis qu'il croit, et nous, on pourrait regarder cette histoire en disant, mais Jésus, il est venu vers toi pour te demander. Ça veut donc dire qu'il pense, tout au moins, qu'en toi se trouve quelque chose qui lui permette d'obtenir cette guérison. On pourrait tout simplement être un peu frivole dans notre approche avec le Seigneur et dire, bon, mais parce que je me suis approché de toi, ça devrait prouver que je crois. Non, ce père ne prend pas de chance, ne court pas de chance, ne court pas de risque, se tourne vers Jésus de façon spontanée lorsque Jésus lui dit « Si tu crois, tu vas voir effectivement cette prière, cette demande s'accomplir. » Il lui dit « Viens au secours de mon incrédulité. » Ce père ne prend pas pour acquis que sa foi est optimale. Et pour nous aussi, enfants de Dieu, croyants du 21e siècle, nous devrions avoir cette même approche et dire « Seigneur, notre foi doit être en progression, notre foi devrait être dans ce processus où elle s'améliore quotidiennement. » Et si on parle effectivement d'une progression, si on parle d'une amélioration, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ma foi n'est pas ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle pourrait être. Alors prenons effectivement cette approche comme ce papa, honnête, sincère, humble et modeste, en disant à Jésus, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, fortifie les bases mêmes de ma foi. » Et c'est ce que cet enseignement va donc nous permettre de faire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est donc la base des choses que l'on espère. L'espérance qu'on a en Christ, l'espérance qu'on a via la parole de Dieu ou via ce que nous connaissons de la parole de Dieu, prend son élan de la base qu'est notre foi. Une ferme assurance, donc une base de cette assurance, de cette croyance, des choses qu'on espère. Chose, c'est le terme grec pragma, qui parle d'un fait, d'un accomplissement, d'une chose existante. Pragma va donner dans un langage très contemporain le terme pragmatisme ou pragmatique, quelqu'un qui fait preuve de pragmatisme. Ça veut dire quelqu'un qui fait preuve d'une réalité. Un pragmatisme, c'est un fait concret. Donc ici, on est en train de nous dire, la foi, c'est la base de ces faits concrets dans lesquels je crois. Les choses concrètes dans lesquelles j'espère. Espérer, c'est le terme elpizo, donc E-L-P-I-Z-O, elpizo, E-L-P-I-Z-O, en un seul mot, bien entendu, qui veut dire attendre avec joie, et avec une pleine confiance. Ma foi va m'amener à attendre, sans le moindre doute, sans la moindre hésitation, avec la joie la plus parfaite et avec la confiance la plus parfaite, ces choses qu'on espère, ces choses ou ces démonstrations des choses que l'on ne voit pas. La foi va permettre de rendre concrètes nos croyances, de rendre véritables nos croyances. Si je n'ai pas la foi, ce ne sera pas un fait concret, ça va être une hypothèse, ça va être une probabilité, une possibilité. Dieu va devenir une probabilité ou une possibilité. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur relation avec Dieu reste possiblement il existe. Or, les hommes et les femmes dont nous parle Hébreux 11 vont être des hommes et des femmes qui vont affronter des choses où ils vont rester fermes ou à travers lesquelles ils vont rester fermes. Pourquoi? Parce que dans leur cas, dans leur croyance, dans leur intellect, dans leur âme et dans leur esprit, il n'y a pas de doute sur l'existence même de Dieu. Il n'y a pas de doute sur ce qu'on leur a enseigné, comme quoi c'est véritablement un réel et un existant Dieu qu'on leur a enseigné. La foi est une démonstration, donc le pistis est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, du pragma qu'on ne voit pas. Donc une démonstration, c'est elgochos, eleg, plutôt elegchos. Je déparle, il va falloir que je me réentraîne avec le grec pour les prochaines séances. Elegchos, qui s'écrit E-L-E-G-C-H-O-S. E-L-E-G-C-H-O-S. Une démonstration, c'est quelque chose qui a été testé, éprouvé, approuvé. Voir, blepo, B-L-E-P-O, qui veut dire percevoir, discerner, comprendre, saisir. La foi est une démonstration. La foi va me permettre d'établir comme approuver, éprouver les choses de Dieu. Et va me permettre de me présenter devant Dieu aussi comme ayant cette croyance, cette assurance qui a été éprouvée. Tout au long de ce chapitre, on va voir des hommes qui passent par des moments difficiles. On va voir des femmes qui passent par des moments terribles, mais qui, en dépit des circonstances, ne semblent pas voir leur foi flancher, leur foi qui oscille entre oui aujourd'hui, non demain, oui aujourd'hui, non demain, influencée par les circonstances présentes. Non, c'est une foi qui est ferme, résolue, admise, confessée publiquement et à travers laquelle nous menons une vie établie devant Dieu. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Témoignage favorable de qui? De deux groupes en particulier. De Dieu premièrement. Donc, un témoignage favorable de Dieu, on va le voir notamment dans le cas de Enoch, où on va dire que parce qu'il a été trouvé agréable à Dieu, on a rendu de lui un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais c'est le même cas pour l'ensemble de ces personnages d'Hébreux 11. En raison de la foi, en raison de la foi qu'ils possédaient, en raison de la foi qu'ils ont affichée, en raison de la foi qu'ils ont manifestée, ils ont été trouvés agréables à Dieu et ont reçu un témoignage favorable de Dieu, mais de surcroît à cela, de tous ces témoins qui les entourent. Et ça, on va le voir dans Hébreux au chapitre 12, le verset 1. On va dire, parce que nous sommes entourés d'une telle immensité ou d'une telle nuée de témoins. On parle ici non seulement des témoins dans le monde spirituel, que ce soit nos frères, nos sœurs qui nous ont précédés dans l'éternité, que ce soit Dieu et toute entité spirituelle, ange, archange et autres, voire même les démons qui peuvent assurément voir si notre foi est sincère ou pas. Le diable qui peut assurément vouloir mettre en doute notre foi. Et de surcroît à cela, aussi les gens qui nous regardent ici-bas sur terre. J'aime à rappeler régulièrement cette histoire de l'église d'Antioche où on nous dit que pour la toute première fois de l'existence de l'église, on a appelé les membres de l'église des chrétiens, des gens qui s'identifient à Christ, des gens qui personnifient Christ, des gens qui affichent les valeurs et les préceptes et les principes propres à Christ. Donc on les regardait et par ce qu'ils affichaient, par la foi qu'ils démontraient, par leurs actions, par leurs paroles, par leur comportement, par leur attitude, on disait d'eux, voilà des gens qui suivent un dénommé Christ, un dénommé Jésus, et on a commencé à les appeler des chrétiens, donc des disciples de Christ, parce qu'ils affichaient effectivement une véracité dans leur attachement et dans leur croyance à Christ. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'ensemble des personnages bibliques qui nous sont offerts dans la parole de Dieu nous sert d'exemple. Parfois, ce sont des exemples à suivre. Parfois, ce sont des exemples pour éviter certaines chutes, certains mauvais comportements, certaines failles ou certaines choses que Dieu réprouve. Mais dans bien nombre de cas, ce sont des personnages qui nous disent « Voici, Florent, comment tu devrais agir. Voici comment un frère dans la foi, comment une sœur dans la foi qui t'ont précédé ont agi et voilà sur lesquels tu dois calquer ton comportement. » Des constats importants et une mise en contexte importante. Trois constats, premièrement. La foi dont on parle dans ce passage est liée à la rédemption et au salut en Jésus-Christ, et non pas aux bénédictions matérielles qu'on pourrait rechercher. Très souvent, lorsqu'on regarde tout simplement le mot « foi », on l'attache à des bénédictions de ce côté-ci de l'éternité. Lorsqu'on regarde dans Hébreux, au chapitre 10, du verset 32 à 39, faute de temps, je vais vous inviter à le faire à la maison plus tard. Vous regardez ce passage, donc Hébreux 10, le chapitre qui précède, du verset 32 au verset 39. On ne va pas nous parler d'une guérison, on ne va pas nous parler d'une arrivée miraculeuse d'un chèque bancaire, on ne va pas nous parler d'un trésor sur lequel on est tombé par hasard. On ne va pas nous parler d'une délivrance par rapport à un ennemi qui vient nous confronter. On nous parle de la foi en Christ, de la foi du fait que Jésus est effectivement le Sauveur et de la foi dans le fait que Jésus va revenir et que Jésus nous promet le salut. Donc ici, lorsqu'on parle de la foi, soyons bien clairs. On ne parle pas de la foi pour obtenir les bonbons, les joujoux, les bonus qu'on espère. La foi dont on parle ici, c'est une foi qui est liée à la rédemption, qui, quant à nous, qu'on en consentira tous, ou on sera tous d'accord sur le fait que la plus grande des bénédictions qui puisse être accordée à quelqu'un, la plus grande bénédiction qui puisse être accordée à un pécheur, c'est de toute manière d'obtenir le salut. Jésus pourrait ne plus rien faire dans notre vie, simplement nous avoir accordé le salut et nous serions bénis pour l'éternité. Donc la foi ici, c'est une foi dans le salut, dans le message du salut qui est attaché à Christ. Deuxième constat important, les premiers chrétiens ont accepté les outrages pour que le message du salut se propage. Je lis pour vous les versets 38 et 39, les versets 32 et 34 dans le chapitre 10. « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs qui durent toujours. » Ici, on nous parle que nos héros de la foi ont accepté des tribulations. Pourquoi? En raison de cette éclairage, en raison de cette lumière reçue dans leur premier temps, lumière qui est en fait le message de l'Évangile du salut à travers Jésus-Christ. Troisième et dernier constat, ces héros de la foi ont été honorés pour avoir manifesté leur dite foi dans des circonstances où celle-ci était éprouvée. La foi n'a de pertinence et de valeur que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Il est facile de croire en Dieu lorsque tout va bien. Il est facile de croire à Dieu lorsque je n'ai pas faim. Il est facile de croire à Dieu lorsque mon frigo est rempli. Il est facile de croire en Dieu lorsque la santé va bien. Il est facile de croire en Dieu lorsque je n'ai pas d'opposition. Il est facile de croire en Dieu lorsque la vie est facile. C'est un peu plus ardu lorsque les situations se complexifient, lorsque notre foi vient à être secouée par les circonstances de la vie. J'expliquais mercredi dernier, lorsque j'enseignais, ou il y a deux mercredis plus tôt, en disant, voici un moment quand, lorsque j'ai été diagnostiqué, lorsque j'étais en plein milieu des traitements, lorsqu'on ne savait pas ce qui allait arriver avec moi, quelqu'un est allé voir Daphné, sachant que j'étais croyant et que j'étais pasteur, et lui a demandé, mais est-ce que sa foi en a pris un coup? Est-ce que sa foi a été ébranlée? C'était une question légitime, et Daphné a eu la bonne réponse de lui dire, tu sais quoi, la foi, c'est bien lorsque tout va pour le mieux, mais c'est encore bien meilleur et encore plus utile lorsque les choses ne vont pas comme on l'aurait espéré. Et tous les personnages qu'on va voir à travers cette série d'enseignements vont être présentés dans des circonstances difficiles, dans des circonstances que l'on sait complexes, et malgré tout, ils vont rester fidèles à Dieu. La clé, et là c'est la mise en contexte importante, et je termine là-dessus aujourd'hui, la clé pour comprendre Hébreux 11, sans faire fausse route dans une quête personnelle et égoïste. Comme je disais, parfois on étudie la foi simplement pour obtenir les joujoux, les bonbons, les cadeaux matériels, physiques, de ce côté-ci de l'éternité. Et ça serait passé à côté de l'enseignement combien important de Hébreux 11. Donc, pour ne pas faire fausse route dans notre compréhension d'Hébreux 11, on doit comprendre qu'à l'instar des patriarches et des premiers chrétiens, tout ce qui arrive dans notre vie doit servir au plan de salut de Dieu pour l'humanité. Ces hommes et ces femmes qu'on va voir dans Hébreux 11, parfois on va nous dire, ils ont préféré subir la mort, ils ont préféré être maltraités pour que le plan de salut, pour que le message de salut soit aussi propagé, soit aussi répandu. Alors je prie mon frère et ma sœur qu'à travers cette série d'études, nous puissions mûrir en Christ. Je ne sais pas si le terme « maturer » existe, mais qu'on puisse devenir mature, qu'on puisse maturer devant le Seigneur, afin que notre foi ne soit pas celle du bébé gâté, celle de l'être infantile, de l'enfant qui dit « Papa m'aime, donc il va me donner des bonbons. Si papa m'aime, il me donnerait des bonbons. Qu'on puisse avoir cette maturité de dire « Je n'ai pas besoin de bonbons » pour savoir que papa m'aime. Je n'ai pas besoin de bonbons pour savoir et pour proclamer que papa, et ici notre Père Céleste, est une profonde, parfaite, excellente réalité et vérité. De dire, je n'ai pas besoin d'avoir des millions de dollars, je n'ai pas besoin même d'avoir la délivrance de mes tribulations ici-bas sur terre pour croire qu'effectivement Christ est le Sauveur, qu'il est mort et ressuscité victorieusement pour me donner la vie éternelle à laquelle j'aspire et vers laquelle je tends. Alors prions. Seigneur, merci pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. Une saison qui va être pavée en ce début d'automne par une étude sur la foi, afin qu'on puisse mûrir, afin qu'on puisse devenir mature dans notre compréhension de la foi et plus encore dans notre manifestation de la foi. À travers cette étude, Seigneur, tu vas nous permettre de sortir des faux pas qui sont souvent nôtres, de sortir des défaillances même qui sont souvent nôtres dans notre proclamation de l'Évangile et dans notre attitude de croyant, où parfois notre bonne humeur tient du fait que nous sommes entourés de bénédictions, que notre bonne humeur tient du fait que nous n'ayons pas d'opposition, du fait que Notre bonne humeur tient du fait plutôt que la guérison a été octroyée. Tu vas nous permettre à travers cette session de pouvoir prendre des grades, prendre des galons devant toi, afin de tendre à être comme ces héros de la foi qu'Hébreux 11 nous enseigne. Des hommes et des femmes qui ont regardé comme peu de choses les bénédictions ici-bas sur terre en comparaison avec celles qui leur sont promises dans l'éternité, qui n'ont pas voulu passer à côté de ce plan céleste, qui y ont cru du plus fort de leur âme et de leur esprit, de leur cœur, de leur corps, sachant de qui ils avaient reçu cette promesse. Alors je prie, Seigneur, pour moi-même, mais pour ma sœur, pour mon frère aussi, que nous puissions avancer, progresser dans notre foi et que nous puissions apprendre. Enseigne-nous, parle-nous, ne retiens rien, mais déverse sur nous toutes les bénédictions que tu as à travers cet enseignement, pour qu'à la fin de cette session, lorsque tu nous regarderas de façon individuelle, mais de façon aussi collective, tu puisses avoir vu une progression chez chacun d'entre nous. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je bénis cette route que nous entreprenons ensemble cette session, je bénis cette série d'enseignements et je prie Seigneur que tu ne cesses de nous parler, de nous transformer et de nous permettre d'expérimenter de façon pratico-pratique, de façon palpable, une progression dans notre foi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, merci d'avoir été présent parmi nous ce matin. Première séance de bénédiction matinale et on se retrouve demain pour la suite des choses, pour les prochains versets, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.